Je suis arrivé à Paris il y a plus de 30 ans maintenant. Le 10 août 1965, dans un train qui est arrivé des Pays-Bas, j'arrivais à la gare du Nord. J'avais un sac à dos, quelques vêtements très légers parce que je suis venu de la Californie. Et puis, j'avais pas d'adresse, pas de connaissance de la France, mais j'avais une envie fou une envie folle, je crois qu'on dit en français, d'habiter à Paris.
Bonjour à tous les artistes, c'est Silver Henri Cissé et Nicole Bacharan, nous sommes à Paris avec Bob Swan, l'Américain que vous venez d'entendre, Bob Swan, l'homme tranquille, Bob Swan, le croisement entre Paul Newman, le chic de Paul Newman et la dégaine de Lee Marvin. Alors il faudrait peut-être que je vous l'écrive, ce Bob Swan, oui parce qu'il faudrait là, le voir immédiatement dans le canon à images et le canon à son. Bob Swan, il a la prunelle bleue et le regard lourd. La tignasse dru coupée, court, même très court, la barbe grisonnante, faussement négligée. Et il est branché. Attention, quand je dis branché, c'est pas grunge, c'est le branché classe, le branché chic, Bob Swan. Et quand vous regardez, il lève sur vous un regard direct, il essuie calmement ses petites lunettes d'intellectuel, et il vous dit, ici je suis toujours l'américain de service, vous savez, avec ce petit accent. Ah là là, Bob, l'ami Bob, oui, il faut l'appeler l'ami Bob parce qu'il nous aime. Et nous, nous l'avons adopté. C'est une sorte de consentement mutuel. Pendant des années, Bob est passé devant et derrière la caméra, de pub en documentaire, de dramatique en long métrage. Il était caméraman, photographe ou scénariste. Il a tout fait, il a tout appris. Et puis un jour, il y a eu la balance. Vous vous souvenez, c'était Philippe Léotard en petit truand de quartier, Richard Berry en flic plutôt sexy, Nathalie Baye encore plus sexy, arpentant les trottoirs de la capitale. Et c'est un Paris que nous aimons, un Paris dont il a longtemps rêvé.
Pour nous, les Américains, il y a une espèce de mythologie autour de la vie en France et surtout à Paris. Comme j'ai vu, j'étais en train de faire un doctorat d'ethnologie, mais en fait, au fond de mon cœur, je voulais être romancier. Et dans la tradition d'Henri Miller, Hemingway et tout, et beaucoup d'autres auteurs américains qui sont venus ici, je dis c'est bien de venir à Paris, d'habiter dans une chambre de bonne et écrire les grands romans américains. Bon, c'était pas le cas parce que je suis tombé dans le cinéma.
Les amoureux de Saint-Germain, on voit des ombres qui se pressent, il y a des cris qui vous agressent.
Vous l'avez reconnu, c'est Serge Reggiani, La nuit de Saint-Germain-des-Prés, la bande originale du premier film de Bob Swan. Bob qui est avec nous à Paris, Bob qui a beaucoup travaillé à Hollywood, et Bob qui a beaucoup travaillé et également ici à Paris. Et c'est ici qu'il a choisi de vivre, parce que comme il le dit, c'est plus important que ma carrière, parce que ma vie est ici, avec ce petit accent qu'on adore. Alors Nicole et moi, nous nous sommes rendus chez lui, à son adresse, à un croisement de rue où Saint-Germain-des-Prés d'ailleurs devient Faubourg Saint-Germain. Et tous les deux, nous parcourons à pas lents le somptueux passage voûté qui se cache derrière la façade classique. Et 50 mètres plus loin, alors là, nous restons en bouche bée. Vous devez certainement vous souvenir, à l'école, on vous a imposé ce sujet de rédaction. Décrivez la maison de vos rêves. Eh bien, elle est là devant nous. La petite maison bleue au fond de la cour, nous avait prévenu Bob, hein, pas Frimeur. Bleu, en effet, elle est bleue, ce bleu du ciel quand il fait beau et même quand il fait très très beau. Mais pour le reste, c'est extraordinaire. Qu'avons-nous devant nous? D'immenses portes cochères où passaient autrefois les chevaux. Quand on regarde au-dessus des murs de la cour, on voit des arbres. Et à l'intérieur de la maison, alors là, un enchantement. De grandes baies vitrées d'où coule à flot une lumière sublime qui vous donne là sur le champ immédiatement l'envie de peindre, de devenir un grand peintre, et encore mieux, pourquoi pas, de devenir rentier. Et quand vous écoutez, ben tenez, écoutez, pas un bruit, non, non, rien. C'est la ville à la campagne, chez Bob, on entend le silence. Idéal pour écouter une histoire, celle de son Paris, le Paris de Bob Swan.
J'ai eu la chance d'avoir connu Paris très bien, parce que j'ai vécu un peu dans tous les coins de Paris. Et puis, comme je n'avais pas beaucoup d'argent quand je suis arrivé, enfin pas du tout, et que je faisais des petits travaux, veillais de nuit dans un hôtel, j'ai adressé les enveloppes dans un garage Citroën à Pantin, j'ai travaillé dans un restaurant en faisant la plonge, etc. Alors, j'ai fait beaucoup, beaucoup de Paris à pied. Je suis allé du 16e à Pantin à pied, par exemple, en 1965. Et j'adorais ça, j'adorais ça. C'était une telle joie de découvrir cet univers. J'avais 20 ans, et puis à 20 ans, on ne voit pas les distances comme ça. On peut tout faire à 20 ans, on ne réfléchit pas.
Et il faut combien de temps pour traverser Paris, pour faire le 16e Pantin?
Figurez-vous, pas si longtemps. Hein. C'est extraordinaire. Même aujourd'hui, l'autre soir, je suis allé à l'opéra. Et je ne sais pas, j'ai dit, tiens, il fait doux, il fait beau, je vais à l'opéra à pied. Et puis j'ai mis 15-20 minutes de Saint-Germain-des-Prés. C'est extraordinaire. Peut-être dans le 16e Pantin, il fallait une heure et quart. Parce qu'en fait, Paris n'est pas très grand. D'ailleurs, je me demande si on ne peut pas faire plus vite à pied qu'en voiture hein, aujourd'hui.
Et quand vous vous promenez dans Paris, quand vous voyagez dans Paris à pied, vous levez la tête ou vous allez le plus rapidement à votre point de rendez-vous?
Je lève la tête, bien sûr. C'est une ville, c'est un festin d'images exceptionnelles, extraordinaires. Je veux dire, c'est une beauté, c'est une des plus belles villes du monde. Les gens, je trouve beau, je trouve l'architecture superbe, c'est une ville relativement propre aussi. Parce que vous savez, le métier que je voyage beaucoup, je fais des films sur tous les continents et beaucoup de pays du monde. Et chaque fois que je reviens à Paris, je me dis qu'est-ce que j'ai de la chance d'habiter ici.
Et est-ce que je pourrais avoir votre Paris à vous, votre petit coin secret? Là, je voudrais bien avoir le petit secret de Bob Swan.
Ah ben, si je le dis, c'est plus un petit secret, alors... Mais moi, je suis quelqu'un de très éclectique. J'aime tout à Paris. J'aime les bas-fonds de Paris. Parce que quand je fais La Balance ou Parfum de meurtre, un film que j'ai fait il y a 2 ans, quand je fais mes films, j'ai l'occasion d'aller explorer les coins un peu interdits de Paris. Comme je fais La Balance, bien sûr, je suis allé à Belleville avant que les cinéastes, même les Parisiennes, connaissaient l'existence de Belleville. Parce qu'il faut dire que pendant des années, on était très ignorants de cette ville. Paris, pour moi, c'est surtout pas les Champs-Élysées. Saint-Germain-des-Prés, je le connais par cœur, je le fréquente, parce qu'ici, il y a tout que j'aime. Il y a le café Flore, qui est un café où je suis tranquille pendant 2 heures pour bouquiner ou écrire. Il y a la librairie américaine, Village Voice, qui est dans le 6e, où Odile, la femme qui tient ça, connaissent tous les livres qu'elle vend, et puis on discute de la littérature. Il y a des petits restos comme le Coffee Parisien, où je trouve une cuisine franco-américaine dans une ambiance très sympathique. Il y a Brasserie Lip, où je dîne souvent le soir. Il y a les habitudes, et puis le cinéma. Il y a, en fait, tout ce que j'aime, je trouve dans ce quartier. Et puis, je suis pas loin de d'autres quartiers. Mais en fait, de temps en temps, assez souvent, il faut le dire, je prends mon cahier, quand je suis pas en tournage, avec une crayon, et je fais des grands marches à pied, et je me trouve dans les quartiers différents. Par exemple, ce mois-ci, tous les jours, j'écrivais au café Beaubourg, en face de Beaubourg, l'après-midi, parce qu'il n'y a personne, il y a des grandes tables, il y a une belle lumière. Parfois, il y a un petit café dans le 10e où je vais, qui est un café très 1920, avec les personnages du quartier, des ivrognes, les prostituées, etc. Mais une espèce de climat d'autrefois. Et puis j'aime beaucoup ces endroits-là.
Quand vous êtes dans un café, comme vous nous l'avez décrit tout à l'heure, avec votre cahier, votre crayon, vous inspirez les gens qui vous entourent, vous observez beaucoup, vous regardez un peu ces Parisiens, justement?
Oui et non, mais j'aime bien les décalages. C'est-à-dire que chez moi, j'arrive plus à travailler. Je suis trop bien dans mon bureau. J'ai tous mes livres, mes compact discs, mes photos, mes souvenirs, des claps de tous mes films. C'est un endroit où je suis encombré maintenant. C'est trop bien, c'est un peu un cocoon. Dans un café, c'est un endroit qui n'est pas hostile, mais où je ne suis pas chez moi. Donc, je peux écrire un scénario qui se passe aux îles du Pacifique du Sud dans un café, parce que j'aime bien ce décalage. Par contre, les gens que je vois, des petits bruits de conversation que j'entends, je note dans mon cahier. Et peut-être 1 an, 2 ans ou 5 ans plus tard, je vais les utiliser. Ça, c'est vrai. quand on fait un métier artistique, c'est soit du cinéma ou d'écrire, je crois que c'est un boulot de... En fait, c'est 24 sur 24, on ne s'arrête jamais. Je veux dire, on va au théâtre, on dîne chez des amis, etc. Quelqu'un dit un truc, on voit un truc, hop, il faut noter très vite, il ne faut, faut pas oublier. Mais j'aime bien les cafés parce que, d'abord, je fantasme sur les gens que je vois. J'imagine leur vie. Je vois une belle fille qui est jeune, qui est au comptoir, et puis un vieux monsieur vient discuter avec elle. Est-ce que c'est son père? Est-ce que c'est son amant? Est-ce que c'est son oncle? Est-ce que c'est... On ne sait pas. Il y a toute une vie derrière ces gens-là. Et puis, j'aime bien d'imaginer tout ça.
Un peu n'importe où. Peut-être à Paris, à Neuilly, à Passy.
Juste après la balance, quand Johnny était avec, avec mon actrice Nathalie Bay, il me demande de faire deux vidéos pour lui, deux clips. Et comme je le fais, mais je ne voulais pas être payé parce que je dis, Johnny c'est un copain, et puis je dis non, bah, je fais ça pour m'amuser, je n'ai jamais fait de clip, etc. Et à la fin des clips, j'avais un petit scooter, et j'ai pris goût. Et après, quand je suis parti travailler à Rome, j'ai fait un film en Italie à Rome pendant 2 ans. J'avais l'habitude de rouler en scooter. Et puis, de nouveau à Paris, j'ai changé, acheté une grosse Vespa assez puissante, un scooter 125, parce que dans la circulation parisienne, c'est ce qui est de mieux. Et puis, depuis, je trouve ça génial. Hein. Jamais de problème de garer, de... C'est toujours, pour se déplacer, c'est extraordinaire. Hein, ce qu'on voit, la circulation ce matin, c'est typique, quoi. Avec un scooter, on passe sans problème. Je crois qu'il faut traverser parce que...
On va tenter de traverser, Bob, hein, parce qu'il est plus difficile de traverser la rue que de circuler en scooter. Nous sommes là avec Nicole et Bob dans un dédale de ruelles du côté de la fac de médecine. Et Bob nous entraîne vers un petit bistrot. C'est un de ses sanctuaires, un de ses petits lieux secrets que nous allons partager, un de ses lieux privilégiés.
Bah, c'est un peu ma cantine. C'est là que je déjeune tous les jours, ou presque tous les jours, que je vois toujours des copains. Moi, j'aime bien l'idée de... Comme je fais un métier où il n'y a pas cette stabilité, un métier où on ne sait pas comment on va y gagner sa vie dans un an. On me déplace beaucoup, etc. J'aime bien les habitudes. J'aime bien ce côté village de Saint-Germain-des-Prés, en tout cas ce quartier par ici où j'ai mon café, j'ai mon petit resto, j'ai des copains. Tout ça, moi, j'aime beaucoup. D'abord, c'est une rue là, de 19e, qui est très jolie, assez calme. Et malheureusement, ou heureusement, c'est évidemment comment on le voit les choses, c'était repris par les boutiques de mode très branchées. Donc, le bon côté, c'est que tous les jours, j'ai des très belles femmes qui passent dans cette rue. Donc, c'est sympathique. Je reste au café, je regarde toutes ces jolies filles qui viennent acheter des vêtements. Ça, c'est pas désagréable. Mais ici, il y a deux petits restos. Et puis, je ne sais pas, c'est un côté un peu village encore ici, parce que tout le monde se connaît. Et puis, ah, voici, ils sont ouverts.
Eh bien voilà, nous sommes dans la place et on peut se frotter les mains parce que nous avons franchi tranquillement la porte encore barrée de l'écriteau fermé. Nous sommes mieux que les premiers, nous sommes les seuls. Privilège des habitués, ici il fait chaud, il fait bon. Le zinc occupe presque tout l'espace, quelques tables à l'étroit Et ici, le menu est strictement américain. Nous avons hamburger, hot dog de luxe et coca light. Bob Swan, Bob est chez lui. Il tutoie le chef, embrasse la serveuse, prend des nouvelles des uns et des autres. Il est chaleureux, Bob. Hein. Mais attention, pas envahissant, hein. Juste chaleureux, juste ce qu'il faut. Et si vous faites un tour du côté du Coffee Parisien, rue Perronnet, vous y trouverez peut-être Bob Swan, l'œil rêveur en train de gamberger sur ce thème éternel, les femmes, et particulièrement les nôtres, et peut-être également les siennes. Ah, les Françaises. Bob en a épousé une, aimé plusieurs, il les aime toujours, hein. Plus sexy, plus chic, plus racé que les Américaines.
Bah, j'aime beaucoup les Françaises parce que d'abord, la mère de mes enfants, mon ex-femme donc, est française. Ma femme actuelle est française. J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de fiancées françaises. Donc, quelque part, j'ai une petite faible pour les Françaises, c'est vrai. Mais j'aime la beauté, mais c'est surtout, j'aime un aspect féminin. J'aime beaucoup leur intelligence. Les femmes françaises, contrairement aux femmes américaines, elles peuvent s'imposer tout en restant féminine. Hein? Et ça, j'apprécie énormément. On ne se sent jamais menacé, en danger, comme en compétition, comme une femme américaine peut nous faire sentir. Hein, c'est très différent. Je crois profondément que les femmes sont supérieures aux hommes, mais en fait, on est très différentes. Un homme et une femme, c'est deux animaux très différents.
Hein. Qu'est-ce qui fait la supériorité d'une femme ?
Sa patience, sa ténacité, son regard sur les choses, une certaine sensibilité. Que nous, les hommes, nous n'avons pas cette sensibilité, ni cette patience. Et j'admire énormément ça. D'ailleurs, je m'entoure souvent avec des femmes dans mon équipe. J'étais un des premiers réalisateurs en France de prendre une femme qui était chef opérateur. Tous mes premiers films étaient faits avec des premiers assistants qui étaient femmes. Je trouve ça très agréable. Et puis, c'est vrai que moi, je ne m'intéresse pas trop à des trucs dits de mecs. Hein. Moi, je n'aime pas le sport, je n'aime pas le foot, et je n'aime pas les bagnoles, etc., etc. Moi, je suis quelqu'un, je ne sais pas, mes centres d'intérêt, c'est pas comme tout le monde, peut-être, je ne sais rien. Hein. C'est vrai que c'est quand même une grande... un grand atout pour les Français, c'est leur femme. Had to be you. It had to be you. Me and them, whether you're false, I love you still, baby. It had to be you, wonderful you. Had to be you.
À Paris, dans le sanctuaire de Bob Swan, au Coffee Parisien rue Perronnet, nous sommes avec Nicole et notre invité. Et notre invité, Bob, se souvient d'un jour où un grand type l'a arrêté dans une rue de Los Angeles, lui a posé un revolver sur la tempe et a hésité un instant à tirer avant de s'enfuir avec son portefeuille. L'omniprésence du crime à l'américaine, les Français n'en ont aucune idée. Et c'est tant mieux, c'est heureux. À Paris, Bob se sent en sécurité. Il ne regarde pas sans cesse par-dessus son épaule pour surveiller celui qui le suit dans la rue. Rien que pour ça, il vous dira facilement, il nous l'a dit, « Moi, je suis French. »
Non, je suis un Français, mais je pratique un accent américain. Hein. Je m'entraîne pendant 30 ans de garder cet accent. Mais c'est vrai que j'ai apprécié énormément la vie ici, sinon je ne serais pas là. Hein. Personne ne me force de rester ici. D'ailleurs, quand je fais... après d'avoir fait la balance, on m'a proposé tout de suite d'aller à Hollywood, de faire des films là-bas. Je l'ai fait d'ailleurs. J'ai eu un contrat comme producteur réalisateur à l'MGM. Je suis parti là-bas. Je fais Escort Girl pour la Fox avec Michael Caine et Sigourney Weaver. Je fais Mascarade pour l'MGM, etc. J'étais bien parti là-bas. Mais c'est vrai, c'est la qualité de vie qui me manque ici. C'est des habitudes. J'aime pas Hollywood, j'aime pas Los Angeles, j'aime pas l'idée de monter dans une voiture pour aller acheter un paquet de cigarettes ou un journal ou n'importe quoi. J'aime pas cette vie-là.
On ne se rend pas compte, nous les Français, de la qualité de vie que nous avons, peut-être de la chance que nous avons. Est-ce que vous pourriez nous la décrire, nous la définir, vous qui avez du recul, justement?
Ben écoutez, justement, c'est une chose qui me frappe énormément. Les Français, c'est un peuple qui adore de se plaindre. Ce sont des râleurs, les Français. Et d'ailleurs, ça agace beaucoup les étrangers. Mais ça suffit qu'ils voyagent un peu, avec les yeux ouverts, et ils verront qu'ils ont une qualité de vie vraiment exceptionnelle. Je suis arrivé ici en 65. C'était encore un pays beaucoup plus agricole. C'était pas un pays de consommation. Ça m'a beaucoup frappé. Moi, je suis venu d'un pays de supermarché. Vous allez au supermarché, vous achetez un déodorant, vous avez 40 000 marques et types de déodorant. Ici en France, je suis arrivé, vous allez à Monoprix plus unique, vous avez à l'époque un pour homme et un pour femme. Et c'était ça. Mais ça a changé, parce que j'ai vécu mai 68, j'ai vécu un grand bouleversement dans l'architecture de Paris, les promoteurs, les années 70, tout ça j'ai vécu. Le pays est profondément changé. Et j'ai la chance, parce que j'ai connu la fin, la toute dernière fin du Paris après-guerre. C'est-à-dire, après-guerre, avant 68, j'estime que la vie parisienne ressemblait beaucoup de cette vie que les Français connaient juste après la guerre. C'était avant que le drugstore Saint-Germain-des-Prés existait, c'était au Royal Saint-Germain, etc. Enfin, c'était notre vie. Les quartiers parisiens, certains existaient. Le 13e, c'était un village. Place des Fêtes, c'était des petites maisons. Maintenant, c'est des HLM. D'ailleurs, la drugstore, on va le détruire. Donc, moi, je ne regrette pas trop. Mais enfin, c'est vrai que la France que j'ai connue en arrivant, ce n'est pas la France maintenant. Donc, ça, c'était une chose à la fois, je regrette aussi. Je crois qu'on a perdu quand même une certaine âme de certaines choses en France. Mais aussi, on garde les choses. Mais c'est vrai que maintenant, on lutte contre les grandes surfaces, on lutte contre les fast-foods, les McDo, etc. Il y a quand même une vie qui est en danger de disparaître. Une qualité de vie qui est en danger de disparaître. Notre cinéma aussi. Alors, je suis un Américain à Paris, mais je suis aussi un cinéaste français avant tout. J'ai pris le métier de cinéma ici. Et je vois comme notre cinéma est menacé par le cinéma américain.
Comme elle respire, la mer n'existe pas. La mer n'existe pas.
Alors tout à l'heure, vous avez failli vous étrangler. Oui, c'est bien Bob Swan avec son accent craquant qui dénonce la menace du rouleau compresseur made in Hollywood. Car au fond, il nous doit une fière chandelle, Bob. Sans les Frenchies, il ne serait sans doute pas levé dans le cocon de son bureau lumineux et feutré où nous avons eu le privilège d'être accueillis. Chaque objet, chaque meuble y a été choisi avec soin, reconstituant pièce à pièce tout l'univers de Bob Swan. On y trouve des centaines de livres, tous ses disques favoris, ses fauteuils de metteur en scène, il en a quelques-uns, hein. Les claps de ses films, des gravures anciennes, il y a des tableaux astrés, il y a également des photos de ses tournages, c'est tout à fait normal pour un réalisateur, il y a également les signatures de ses stars, et à côté d'une photo de Bob tenant un César dans ses bras, bien sûr pour la balance, pour ce film que vous connaissez, il y a une lettre de François Truffaut, encadrée et souvent relue. Mon cher Bob, devant mon récepteur de télévision, je me suis réjoui de votre succès si mérité. C'est à hier, dans le sud de la France, au moment de Noël, que j'ai vu votre très bon film au milieu d'une salle pleine qui ne boudait pas son plaisir. Il y a un point commun entre un succès et un échec, c'est que très vite, on a envie de passer à l'exercice suivant. C'est pourquoi je vous souhaite bon courage et bonne chance. Du courage et de la chance, il y en avait alors besoin à Bob. Passé en quelques jours de l'euphorie des Césars décernés à la balance, à l'assassinat en règle de son film par certains membres de la profession. Il nous faisait une vraie crise de blues, là en direct Bob. Autrefois, Truffaut, François Truffaut, lui avait déjà offert de la pellicule, des conseils et de l'amitié. Et ce jour-là, il lui tendait à nouveau la main, et pour Bob, rien que cela, ça valait le coup.
Ben, c'est normal, le cinéma que j'aime, le cinéma qui... Je veux dire, c'est grâce aux Français, grâce à la Cinémathèque française que je suis cinéaste aujourd'hui. Je suis venu ici et c'est vrai que les Français, je trouve un peuple très accueillant pour les artistes. Il y a une grande tradition, le nombre de peintres, de romanciers, de gens inconnus, des gens qui cherchaient une voie ici, que ce soit Henri Miller qui était aidé par Blaise Andrat ou Picasso qui était pris par en main par les jeunes peintres français à l'époque, au début du siècle, etc. Je veux dire, c'est quand même un peuple qui a une grande tradition. Et même aujourd'hui, je veux dire qu'un mec comme, un cinéaste comme Robert Altman, il a survécu grâce aux Français, parce qu'en Amérique, il était enterré, il était fini. Ici, les Français, ils ont gardé en vie cette cinéaste. Elle a pu faire un comeback, elle a pu faire le player, parce que pendant 15 ans, elle était dans un désert à Hollywood, et puis c'est les Français qui l'ont fait exister. Elle a fait des films ici, elle était reconnue ici. Woody Allen, c'est pareil. Woody Allen, sans la France, ne fera pas de cinéma. En Amérique, ces films ils font pas d'argent.
Heaven, I'm in heaven.
When we're out together, dancing cheek to cheek, cheek to cheek, cheek to cheek, cheek to cheek.
À Paris, Bob Swan, pour son prochain scénario, est toujours à l'affût d'une silhouette insolite ou d'un dialogue furtif. Vous savez, ce que vous entendez au coin d'un bar. Bob est fasciné par l'univers trouble des nuits parisiennes. C'est une sorte de chasseur. Il observe ces jeux de masques, ces personnages extravagants, pathétiques, ceux qui émergeront au bout de la nuit frissonnant avec des paillettes ternies et un maquillage en déroute. La Balance, son film, ça donnait déjà au vertige nocturne des années 80. Rien à voir avec les matinées connuiteux des années 90, comme j'aime bien les appeler pour employer un néologisme. Avant de se lancer dans le tournage de Vice et Versa, son prochain film, Bob Swan a vaillamment repris son matériel de spéléologue pour plonger dans les bas-fonds du Paris des marginaux. Mais le temps a passé, franchement il n'a plus la santé pour enchaîner une nuit blanche et journée de boulot. Pour continuer à traîner ses guêtres dans les bars sans se saper le moral, il a trouvé la méthode. Il fallait un pur perfectionniste américain pour y penser. Et on n'est pas certain que vous ayez vraiment envie de l'essayer.
Non, mais je ne suis plus un nuiteur. Je ne sors plus la nuit, pour tout dire. Donc c'est toujours difficile maintenant, parce que moi, j'ai 10 ans de plus que depuis la Balance. Et c'est vrai que maintenant, d'aller sortir la nuit, c'est très, très dur. Hein, parce que je me lève à 8 heures. Enfin, je me lève à 6 heures, je suis au boulot à 8 heures. Donc, c'est difficile de travailler la nuit. Là, qu'est-ce que je fais? Par exemple, là, je vais pour ce film, j'étais obligé d'aller dans les endroits un peu très spéciaux, un peu obscurs, les boîtes de travestis, de drag queens, les bars un peu très louches, etc. Qu'est-ce que je fais? Je rentre, je me couche à 8 heures le soir, je mets le réveil pour 4 heures le matin, je me réveille à 4 heures, je m'habille et je sors. D'ailleurs, c'est très drôle parce que l'autre soir, je suis allé au Queen, une boîte aux Champs-Élysées, et j'arrive à 4 heures, mais tout frais, bien reposé et tout. Et toutes les gens me regardent, mais comme je suis, je ne sais pas quoi là, parce que c'est vrai qu'ils sont très fanés à 4 heures du mat, et moi, j'arrive frais comme un fleur là. C'était assez, assez drôle. Mais c'est vrai, maintenant, j'ai du mal à traîner la nuit. Hein. Et puis, j'ai tellement de choses à faire. Hein. Tellement de choses j'ai envie d'écrire, de voir, etc. C'est que il faut que je me lève tôt pour faire tout ce que j'ai envie de faire.
À quoi ressemble Paris à 4 heures du matin?
Paris, c'est assez extraordinaire. C'est une image, je ne sais pas, j'ai envie de montrer cette image. C'est comme cette ville, et ça m'a toujours fasciné, même quand j'ai fait la Balance, c'est là que je me suis rendu compte. C'est que la ville, il y a deux villes. Il y a Paris le jour, Paris la nuit. Et c'est habité par deux populations différentes, deux espèces différentes, les gens de nuit et les gens de jour. Et ça ne ressemble pas du tout pareil. Alors là, à 4 heures du matin, quand vous traversez Paris sur votre Vespa, comme moi, et les rues sont désertes, on a des gens qui commencent de se réveiller, des balayeurs, les camions de poubelle, les marchands de journaux, les boulangeries, les boulangères qui sortent, etc. C'est fascinant, cette vie. Et puis, c'est ce qui est encore plus fascinant, c'est que vous arrivez devant une boîte comme la Queen ou le Bataclan à 4 heures du matin, autour, les rues sont complètement vides. Et vous ouvrez la porte, vous rentrez dans ces boîtes et c'est hallucinant, c'est notre monde. La musique techno, les drag queens, vous êtes sur une autre planète. C'est très très bizarre la nuit. Alors moi, bien sûr, quand j'ai fait la balance, j'ai fait la connaissance de beaucoup de policiers, donc j'ai beaucoup de copains qui travaillent la nuit. Et parfois, je sors avec eux et puis il faut voir cet univers. C'est fascinant d'aller dans les bars à Pigalle, discuter avec les gens, d'aller dans les boîtes, les clubs, même des restos. Des gens sont des gens totalement différents. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Mais moi, j'ai énormément voyagé dans les pays francophones. J'ai fait des films un peu partout, à Madagascar, dans tous les pays d'Afrique du Nord, etc. Et c'est vrai que les Français, ils ont une grande respect pour l'individu. Ils ont un grand respect pour l'intellect. Un grand respect pour l'artiste. Et moi, américaine, je crois que s'il y avait une seule chose qui m'a marqué le plus ici, en France, c'est que c'est un pays où le succès compte moins que ses capacités intellectuelles ou artistiques. C'est-à-dire qu'en France, si vous êtes un artiste, si vous êtes un intellectuel, même si vous n'avez pas de succès, on est respecté. Et ça, c'est une chose formidable. C'est-à-dire que les priorités de valeur humaine, pour moi, sont bien placées.
C'était le pari de Bob Swan. Merci Bob. La semaine prochaine avec Nicole Bacharan et Lisa Portier. Nous serons à Paris avec Eva Wagner, qui est l'arrière-petite-fille de Richard Wagner. C'est à découvrir dans À Paris. Merci les artistes et à la semaine prochaine.